écoutez Dig Dig Diggers, l'émission de Radio Ferrarock. La Ferrarock vous parle souvent de la ville de Tours. Cette fois-ci, ce ne sera pas pour ses châteaux et sa gastronomie, mais parce que d'ici quelques jours se tient la 38e édition d'Ocar de Tours, portée par Radio Béton, la radio Ferrarock Tourangelle. Deux de leurs animateurs vedettes s'attellent en fin d'émission à vous donner des raisons de poser RTT, congé, récup ou arrêt maladie du 10 au 14 juin 2025. La scène nantaise, elle aussi, se porte bien. Trix et Elise Bourne sont là pour l'attester. Si c'est à Nantes que la musique d'Elise Bourne émerge, l'artiste est originaire de Nouvelle-Zélande. Elle rend hommage à la folk avec Covenant, un premier album né confiné qui s'affranchit des murs de sa chambre pour dévoiler toute sa singularité. Trix est quant à lui un power trio qui bouscule la scène post-punk et dont le chant est une véritable signature. La Ferrarock les avait rencontrés lors de leur passage remarqué aux Inuits du Printemps de Bourges et tous les voyants sont au vert pour ce groupe plus que prometteur. On retrouve ces artistes en interview dans les locaux de Jet FM et on commence avec Elise Bourne aux côtés d'Henri. Walking steady up John
juice. Wonder what he thinks in his vient d'écouter Pickles, un extrait du disque Covenant de Elise Bourne, qui est en ma compagnie. Alors, on est à la fois sur Jet FM et puis sur un bon nombre des radios du réseau Ferrarock, puisque ton disque Covenant, qui est sorti en avril, est en repérage la semaine du 26 mai. Et on va pouvoir donc en explorer quelques extraits et puis avoir quelques propos autour de ce disque. Bonjour Elise.
Bonjour.
C'est un premier album Covenant, avec 10 ou 11 morceaux.
12 morceaux.
12 morceaux, pardon. Dont je crois savoir qu'ils sont issus d'un corpus encore plus large, puisque tu as écrit, notamment au moment du premier confinement, assez longuement, avec le temps qu'on avait tous et toutes à ce moment-là.
Voilà.
Beaucoup de morceaux sont sortis, quelques-uns sont restés.
Une grosse partie sont restés même. Donc j'ai fait un morceau par jour pendant 30 jours. Et c'est en produisant en masse comme ça qu'on se rend compte qu'il faut vraiment écrire 3 chansons nulles pour en avoir une bonne. Donc oui, c'est vraiment une petite portion de ce que j'ai pu écrire pendant le confinement.
Tu t'étais mis cette contrainte, une
par jour ? En fait, je travaille avec Grégoire Vaillant et Eva Ménard, qui sont les cofondateurs du collectif Opéra. C'est un peu eux qui m'ont pris sous leur aile quand j'ai commencé ma carrière musicale, quand j'avais 19 ans. En fait, on commençait tout juste à se faire un peu la main. J'allais commencer à enregistrer un EP, en fait, à l'époque. Mais j'avais j'avais 4 ou 5 chansons. Et quand le confinement est arrivé, c'est eux qui m'ont lancé au défi. Ils se sont dit, c'est l'occasion de créer et de se créer une contrainte dans ce temps qui nous est donné. C'est grâce à eux que j'ai fait ça. Au début, je me suis dit, c'est une bonne idée. En fait, j'avais mal compris. J'ai cru qu'ils avaient dit une semaine. Donc, à la fin d'une semaine, j'étais contente et j'aimais cette chanson. Et puis, ils m'ont dit, ah non, mais il reste encore quelques jours puisqu'on avait dit 30 jours. Et voilà, et ça m'a aidé parce que à la fin de chaque jour, en fait, je leur envoyais ce que j'avais pu faire. C'était bien d'avoir cette espèce de vis-à-vis parce que je pense que j'aurais peut-être pas eu la rigueur d'aller jusqu'au bout si j'avais été que face à moi-même pour ce genre de défi.
Ça veut dire que tu mettais une discipline infernale.
C'est ça.
Levé à une certaine heure, il fallait tout de suite produire. Tu partais de zéro, donc il fallait trouver les mélodies, les textes,
voilà.
Quelques arrangements, enregistrer tout ça,
ouais,
de manière plus ou moins propre.
Non, l'idée, c'était ça, c'est un très bon conseil que m'avait donné Greg. C'était parce qu'au début, oui, je faisais des petites maquettes, donc les 7 premières chansons, il y a quand même une petite démo un peu sympa. Et en fait, il y avait plusieurs chansons où, en fait, si on retirait l'instrumentation que j'avais faite, en fait, la chanson n'était pas très cool. Et le conseil qu'il me donnait, c'était d'avoir, je crois que lui, il appelait ça le squelette de la chanson, et d'avoir vraiment un guitare-voix ou un piano-voix. Enfin, vraiment se focaliser sur la chanson même et pas forcément sur les arrangements. Donc, quand j'étais inspirée, j'enregistrais un peu plus loin, mais en général, c'était vraiment très épuré, en fait, ce que je leur envoyais.
Mais ça fait qu'il y avait des jours où c'était un peu... L'impasse, rien ne vient.
C'est ça, ouais. C'était un peu stressant. Maintenant, j'ai le recul, donc je trouve que c'était trop bien, mais c'était assez stressant, ouais, de se lever le matin, de se dire bon, je vais pas me coucher ce soir avant d'avoir écrit une chanson. Il y a des chansons où c'était très rapide, d'autres où vraiment je me suis rongé les doigts. Mais ouais, de temps en temps, ils m'envoyaient une petite contrainte, un thème ou bien. Un tempo ou des choses comme ça qui m'aidaient aussi parce que c'est plus facile quand on a vraiment rien du tout, c'est plus difficile de trouver des choses. J'ai réussi pendant 7 jours à avoir rien du tout, mais d'avoir quelques contraintes supplémentaires, ça peut aider à un peu aiguiller le truc, quoi.
La fameuse contrainte créative.
C'est ça.
Ouais. Oui, c'est ça. Il faut bien doser ça pour voir à quel endroit c'est handicapant ou au contraire stimulant.
Exactement.
Ça te laissait du temps pour faire d'autres choses ou c'était vraiment intense un jour une chanson?
Non, ça dépendait des jours. Les jours où je bloquais, je passais la journée dessus. Mais non, certaines chansons, ça m'a vraiment pris moins d'une heure. Donc j'avais quand même le temps de me reposer dans le jardin.
Ce qui veut dire que l'écriture, la composition vient assez facilement.
Ça dépend des jours et ça dépend de ma... Je pense mon état d'esprit aussi. Les jours où c'était le plus difficile, c'était les jours où où je me mettais la pression, en fait, où je me disais faut que ce soit parfait. Il y avait vraiment des jours où je me sentais très très nulle. C'est un peu logique quand on se sent nul, on n'est pas très créatif. Et d'autres jours où vraiment j'étais inspirée. Enfin, je pense que ça dépend vraiment de l'état d'esprit. Et j'étais en train d'apprendre aussi parce que avant cette époque-là. Je pensais que pour écrire, il fallait une espèce de, un espèce de download de créativité qui descendent et que je sautais sur l'occasion dès que j'étais un peu créative. Donc ça faisait que en fait j'écrivais 3-4 chansons par an parce que c'est faux, peut-être un peu plus, mais c'était beaucoup moins régulier. Et là, de me dire en fait je peux déclencher ça et je peux me forcer à être créative, c'était un peu un nouveau mode de fonctionnement pour moi. Donc je ne sais plus ce que c'était la question, mais...
C'était ça la réponse. C'est intéressant parce que si on accepte, et c'est pourtant pas rien, si on accepte cette période de 30 jours pendant le confinement où tu produis donc sous contrainte, comment venait l'inspiration avant ? Et peut-être qu'est-ce qui a changé depuis sur les moments où tu sens que ça vient, la création ? Qu'est-ce qui déclenche l'idée, l'envie d'une chanson ?
C'est une super bonne question, je me la suis pas posée et ça donne envie de réfléchir dessus. Je sais pas vraiment, je pense qu'il y a encore, j'ai encore ces choses que j'avais avant le confinement, de tout d'un coup d'être inspirée et puis d'avoir, ça peut venir de, je sais pas, j'ai une phrase dans la tête ou j'ai trouvé une nouvelle suite d'accord à la guitare ou j'ai écouté une chanson qui me parle de quelque chose et je me dis j'aimerais bien faire ma version du sujet que traite cette personne ou quelque chose comme ça, mais je sais pas trop, c'est une bonne question à ruminer.
Pour la prochaine interview, ouais. T'auras peut-être une réponse toute faite. Est-ce qu'il y a des images, des sensations, des odeurs, des sonorités, des touchés
qui peuvent m'inspirer.
Oui, facteur de chanson.
Je pense que en fait, c'est un peu tout. Je pense qu'on peut tirer notre inspiration de tout et n'importe quoi. L'idée, c'est un peu niais de dire ça, mais de garder les yeux ouverts, garder les oreilles ouvertes, et observer ce qu'il y a autour de nous. Et enfin, moi, certaines de mes la chanson qu'on a écoutée, la Pickles. Pour ceux qui comprennent pas l'anglais, ça parle d'un monsieur qui se balade dans la rue avec un pot de cornichons sous le bras. Et en fait, quand j'avais écrit la chanson de base, j'avais l'instrumentation et ça traitait de quelque chose de complètement différent. C'était trop niais en fait, c'était pas dingue. Et on était tous d'accord quand j'avais envoyé à Greg Eva. On se disait l'instrumentation est cool, mais le texte, il y a un truc un peu en surface qui est pas dingue. Et donc je l'avais mis au tiroir et je l'avais pas touché pendant des mois. Et après, quand je me suis repenchée dessus, je me suis rendu compte que je me mettais vachement la pression de d'écrire des choses profondes, qui fassent pleurer, qui fassent réfléchir, etc. Et après, j'ai pensé aux Beatles et j'ai pensé à leurs chansons. Ils ont une façon d'inventer des choses complètement farfelues. J'ai envie de me promener dans le jardin, The Octopus's Garden Under the Sea. Comment on dit, octopus?
Le poulpe.
Le jardin du poulpe sous la mer. Enfin, c'est des trucs complètement débiles. J'ai pas l'apport de la drogue. Je sais pas si eux, ils avaient ça, mais.
Oui, c'est.
Oui, et du coup, je me suis dit, mais en fait, je vais aller complètement dans le sens inverse. Je vais partir plutôt dans le côté de l'absurde et juste, m'amuser avec les mots, m'amuser avec mon imagination. Et en fait, ce monsieur Pickles, il a été inspiré d'une vraie personne qui il n'avait pas le pot de cornichon sous le bras, mais un homme un peu particulier qui se balade dans une rue pas loin de chez ma maman. Je ne sais pas pourquoi, il est venu dans ma tête, j'ai pensé à ce monsieur, j'ai écrit cette chanson, juste pour rajouter le côté un peu absurde, un peu bête. Je lui ai rajouté un pot de cornichon sous le bras, mais voilà, juste pour dire que on peut vraiment inventer tout et n'importe quoi, il n'y a pas besoin de... forcément d'avoir une grosse source d'inspiration, de partir à la mer ou quoi, même si c'est très bien. C'est très bien de faire ça, mais parfois on peut trouver des choses qui sont plus proches de nous.
Je pensais aux sensations justement par rapport à pickles, parce que évidemment pour moi ça fait appel à la cuisine, les pickles, donc ces petits condiments qu'on rajoute, qui rehaussent un plat, et donc sans savoir exactement de quoi il s'agissait, je me disais, il y a peut-être cette inspiration-là à partir d'un goût, de quelque chose. Les cornichons, par exemple.
J'aime beaucoup les cornichons aigres doux. Voilà, donc c'est peut-être ça aussi.
Peut-être que voilà, c'est comment une chanson parfois rehausse, pimente un tout petit peu le quotidien.
Ouais, c'est ça, ouais.
On va écouter Ailleurs. Est-ce que tu veux en dire un mot avant pour justement savoir de quoi il s'agit ?
Ça, c'est encore une autre. C'est un autre morceau qui sort un peu du lot de l'album, donc c'est cool que tu l'aies choisi. Qu'est-ce que je peux dire sur ce morceau ? C'est un morceau où celui-là, Greg m'avait donné les contraintes d'accord. Je pouvais choisir l'ordre dans lequel ils allaient, mais en tout cas, c'est lui qui m'a donné cette idée. Je ne sais plus s'il m'a donné les intervalles ou les accords. Et donc, je suis partie là-dedans. Il m'avait peut-être même donné le tempo, je ne sais plus. Et en fait, c'est drôle parce que c'est mon morceau de l'album qui ressemble le plus à l'esthétique de Grégoire, qui en fait a co-réalisé aussi l'album avec moi. Mmh. Et à l'époque, quand j'ai écrit le morceau, je ne pensais pas forcément qu'il allait être sur l'album, mais je trouve ça drôle en regardant en arrière de me dire voilà, ça c'est un peu le morceau de l'album qui ressemble le plus à ce que lui peut proposer. Enfin, il fait plein de choses. Je vous invite à aller voir tout ce qu'il fait. Il fait beaucoup de choses différentes musicalement, mais. Et dans le texte, eh bien, c'est...
Il est toujours pas question de drogue, on est d'accord.
Il est toujours pas question de drogue. Parfois, il y a des morceaux qu'on écrit qu'on comprend pas vraiment jusqu'au bout, au moment où on l'écrit, et qui prend plusieurs années à vraiment le comprendre. Et je pense que je l'ai pas pleinement compris non plus. Ça peut être... on peut avoir l'impression que c'est en mode, elle écrit n'importe quoi, et puis elle sait faire... Mais en fait, au moment où j'écrivais ce morceau, je pensais à la résistance française. C'est complètement random, ça parle pas de la résistance française, mais je pensais à ce côté un peu communautaire où on est tous pour la même cause, et il y avait ces personnes qui étaient cachées, puis parfois ils devaient fuguer d'un village et puis aller dans un autre, et ils allaient dans un autre village et tout d'un coup ils trouvaient d'autres gens qui étaient pour la même cause qu'eux, un endroit où ils étaient sains et saufs. Et un peu ce truc, c'est un peu, dans le morceau, en fait, je parle, il y a un côté un peu d'invitation de venez ici, on a de la nourriture, ici, on est sain et sauf, etc. C'est un peu random comme morceau, mais j'ai plusieurs morceaux comme ça où quand je les ai écrits, je ne les ai pas compris. Et plus tard, en fait, je comprenais qu'il y avait un peu plus de profondeur. Et ça, c'est un morceau que j'ai hâte de le faire vieillir, en fait, de voir un peu... de voir un peu plus profondément qu'est-ce qui peut raconter. Voilà. If you're tired and hungry, if you're sore, when you're lonesome, weary, long for more, come for.
Livre, Ego, un album salvateur qui prend la forme d'un manifeste pour la liberté des corps. C'est frontal, insolent, sans avoir peur d'en faire trop ou pas assez. C'est juste et terriblement contagieux.
Against the Wall, extrait du disque Ego que vient de publier le groupe Trix, qui est notre compagnie. Bonjour.
Bonjour.
Salut.
Pour ceux qui ne les connaissent pas, donc je vais vous présenter avec vos mots un trio qui refuse de s'incliner et s'affirme envers et contre tout. Donc vous dévoilez un projet plein de colère, plein de contestation, plein de lassitude à certains moments. Vous y abordez le consentement, vous y abordez l'objectification du corps des femmes et sa potentielle réappropriation aussi. Alors, on va commencer avec une question classique. D'où vient la formation du groupe ? Comment vous vous êtes rencontrés ?
On s'est rencontrés il y a 10 ans, en tant qu'amis déjà de base, soit au conservatoire, soit au lycée. Et puis, au même moment, on a monté un groupe avec Owen, du coup, et qui s'appelait Five Last Lives. Est-ce qu'il fallait le dire ? Je ne sais pas.
Je sais pas. On est venu ici il y a 10 ans.
C'est ça, donc voilà. Mais voilà, et puis bah finalement, quelques années plus tard, on a décidé de monter notre trio. Et puis on ne s'est plus quitté, quoi. Voilà.
Au moment de la formation de ce trio, l'idée c'était déjà de partir dans des projets engagés dans ce style, ou alors c'est venu après la formation ?
Ça a pas mal évolué. Bon, déjà, quand on a monté le projet, on s'est un peu cherché. On avait surtout envie de jouer ensemble, en fait. On n'avait pas forcément de but musical précis. Donc, on a eu une petite période où on a testé des trucs. Et puis, au début, on a commencé surtout par faire quand même du rock progressif, des morceaux longs, plutôt instrumental.
Beaucoup de solos, etc.
Donc, ouais, c'est venu un peu après, quand même. Le côté post-punk est engagé avec des textes forts.
Ah, c'est venu au moment des écoutes de quels artistes, du coup?
Il y a eu classique hein, pour beaucoup de groupes, mais il y a eu Idols qui a été quand même un peu une évidence pour nous trois, je pense. Pour ma part, il y a eu PJ Harvey, mais ça faisait déjà un moment. Mais il y a surtout eu Model Actrice qui a été une grosse claque, pas nécessairement engagée, mais en tout cas musicale. Et puis après, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre?
Les Psychotic Monks.
Psychotic, ouais, de ouf.
Clit Drip,
ouais.
Groupe de anglais aussi, très cool.
Ouais, carrément, qui aborde beaucoup ces questions. Il y a des personnes sexisées dans le groupe et qui abordent ces questions-là, justement, de l'appropriation des corps féminins, mais pas que. Et du coup, ouais, ça a été vraiment des petites claques comme ça, on va dire.
Ouais, donc pas mal de rock anglais, post-punk. C'est vrai que l'influence Idols, on la sent très, très fort musicalement. C'est quelque chose qui a été un tournant, ou ça s'est vraiment fait au fur et à mesure des écoutes?
Ça s'est un peu fait au fur et à mesure, hein, en vrai. La transition a été...
douce.
A été progressive.
Progressive, ouais.
Non, bah, en vrai, je pense que le morceau qu'on vient d'écouter, Against the Wall, ça a été un gros tournant dans le projet quand même. Quand on l'a composé, on s'est dit, ah, c'est vers ça qu'on veut aller.
Ouais. Ouais, carrément. C'est la première fois qu'on avait un morceau aussi direct, quoi, et aussi avec une ligne de voix qui reste en tête, et puis le truc ultra court, ultra paf dans ta tête, quoi.
Du coup, vous chantez en anglais, donc il y a forcément beaucoup d'influence anglaise. Est-ce qu'il y a aussi certaines figures du punk français ou équivalent qui vous ont un petit peu donné des idées, qui vous ont dit tiens, ça c'est cool?
Non, pas nécessairement dans le punk français. Par contre, des artistes français et françaises qui nous ont inspirés de loin ou de près, il y en a eu. Il y a eu Bonnie Banane, étonnamment, qui a été... mais plus dans le côté ligne de voix, le côté personnage scénique aussi. Mais c'est surtout des artistes comme ça qui ont des véritables... personnages sur scène, genre par exemple, il y a Kalika aussi qu'on aime beaucoup, qui est une artiste qui fait de l'hyperpop en français. Et quand elle est sur scène, elle a tout un univers à la fois musical, graphique, qui est hyper fort. Et je pense que c'est des choses comme ça qui ont pu nous inspirer, en tout cas sur des groupes français. Mais non, je pense que ouais, c'est plus quand même la vibe punk anglais qui a été forte. Chez nous, quoi.
Comment vous, en tant que musicien, vous trouvez cet équilibre, on va dire, dans un écosystème musical qui n'échappe pas à ce patriarcat, cette oppression? Vous devez être tiraillé, en fait, au niveau conviction. Donc, comment vous trouvez cet équilibre-là?
Alors, comment on trouve cet équilibre-là? De toute façon, j'ai l'impression que vivre aujourd'hui dans notre monde, c'est vivre avec ces paradoxes et ces contradictions, et que ton cerveau, il pète un plomb tellement c'est difficile d'accepter de vivre alors que tu sais très bien tes privilèges et que tu vois ce qui se passe autour et tu fais « waouh ». Voilà, bref, c'est difficile toujours, j'ai l'impression, d'avancer. Comme ça, mais bon, on fait avec. Et puis, dans le cadre de la musique, ce qui est compliqué, notamment dans la scène punk rock, c'est de voir à quel point ça bouge, mais ça bouge des fois lentement. C'est-à-dire que tu arrives sur des coplateaux avec que des groupes de punk et il va y avoir deux personnes sexisées du plateau. Et encore, ça change quand même. Et je parle même pas de la diversité des personnes racisées, etc. C'est encore hyper difficile dans cette musique-là et cette esthétique-là en France, qui est très blanche, qui est très masculine, très cis aussi. Et des fois, ouais, c'est un peu dur d'arriver là-dedans et de te dire nous-mêmes, on est des personnes blanches, des personnes cis, mais de voir que il y a aussi peu de diversité, c'est fatigant, je pense. Mais même pour tout le monde, en fait. Dès qu'il y a un peu de diversité, ça fait du bien, quoi.
Oui, carrément. Mais même pour le public aussi, c'est toujours bien d'avoir de se sentir représenté aussi sur scène, quoi. Et ça manque beaucoup, surtout dans ce milieu-là, ouais.
Blood Family, un nouvel extrait du disque Ego du groupe Trix, composé de Clotilde Artuis, Owen Cummins et Théophane Calvano-Gris, qui sont en notre compagnie.
Je vais parler du contenu de l'album, du coup, maintenant. Donc, on va arriver dans les trucs moins marrants, attention. Mais donc, vous parlez des traumatismes d'enfance, vous parlez des dynamiques familiales, donc des sujets très intimes. Est-ce que... Pour vous, du coup, c'est quelque chose qui est dans la continuité aussi du schéma patriarcal ambiant.
La famille, ça reste un lieu de violence, de domination. Donc, il y a les mêmes problématiques qu'on retrouve un peu partout dans la société qui se retrouvent aussi dans la famille. Donc, après, il y a des familles où tout va très bien, hein, mais faut toujours avoir à l'idée que la famille reste un milieu comme un autre et qu'il faut faire attention et être vigilant à tout ce qui s'y passe.
C'est ça, et qu'on nous matrixe beaucoup avec ce truc de « parce que c'est ta famille », qu'il y a les liens du sang, c'est quelque chose qui est très, très au centre de la famille nucléaire et de tout ce qui est un petit peu... Bah, c'est ça, la société patriarcale. Et du coup, en fait, apprendre à se dire, en fait, non, si j'ai eu, s'il y a des familles qui ont des parents qui sont maltraitants, qui sont banément, en fait, on n'est pas obligé de leur devoir quoi que ce soit. Parce que c'est facile de faire des enfants, par contre, les éduquer, c'est autre chose. Donc, on leur doit rien.
Et puis, la société est organisée autour de la famille, tout. L'injonction à déjà rien qu'au couple. Au couple hétérosexuel, après avoir des enfants, tout est organisé pour que les gens...
Ce schéma se reproduise.
Ouais, c'est ça. Et du coup, nous, on a envie de dire aussi que on peut faire autrement et on peut vivre autrement, en fait.
Donc, dans la continuité de votre engagement, du coup, d'une libération de la parole, donc vous abordez aussi les relations abusives et plus précisément la perte d'estime de soi qui en découle. Donc, c'est quelque chose de crucial, d'important à mettre en avant pour vous, c'est quelque chose qui est central en fait dans cette dynamique là.
Oui, parce que je pense que c'est une chose déjà d'avoir vécu des traumatismes quels qu'ils soient, mais ce qui est important pour nous, je pense, de mettre en avant, c'est surtout qu'on peut s'en sortir et que oui, c'est important de les mettre en lumière, mais que c'est aussi pour ça qu'il s'appelle Ego, l'album, donc l'ego, c'est-à-dire que en fait, pour s'en sortir et pour aller vers autre chose, aborder ces traumas-là et se dire que c'est pas parce que tu m'as fait quelque chose entre guillemets que je suis obligée de l'accepter et d'être la bonne victime et de pleurer tout le temps sur mon sort. Je peux être aussi en colère, je peux être aussi ultra stylée et tout le monde peut vivre tellement de choses. Et en fait, le truc à la fin, c'est de se dire ça fait pas de moi, quelqu'un qui doit souffrir toute sa vie, etc. Et c'est, je pense, le propos de cet album-là, de se dire,
on peut se reconstruire.
Ouais, aussi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est une manière de le voir.
En
quoi.
Plus, la construction de l'album, Ego, c'est le dernier morceau de l'album. Aussi, c'est aussi une manière de dire que on est passé par Against the Wall, Blood Family, Tiny Brain qui parle de consentement, Queen qui parle de patriarcat, et de se dire que à la fin de l'album, on peut s'en sortir. Du coup, comme tu dis, et c'est plus lumineux. L'idée de l'album à la fin, quand même, c'est que ça reste assez ouvert et lumineux. C'est possible, quoi.
Ne pas réduire aussi les personnes à leur statut de victime. Parce que c'est des personnes qui ont vécu des choses, mais c'est aussi des personnes qui font plein de belles choses à côté. Et donc, il ne faut pas les réduire à leur statut de victime. Et je pense que cet album, il parle de ça aussi. I'm walking in the street, look at the queen. I'm so attractive with my sunglasses. Have you ever seen a woman like this? Impossible, the world is at my feet. Ego. Ego. Don't be afraid, it's just my best self. Don't be afraid, I'm shining like a princess. Running over the world, sexy in the mirror. I'm feeling so much better. Talk with me. Did you try? Did you try to talk with me? Did you try? Did you try to talk with me?
Vous êtes toujours à l'écoute du magazine Dig Dig Diggers des radios de la Ferrarock.
Yo yo, les radios Ferrarock.
J'espère que tout le monde va bien.
Ben oui, moi aussi, je suis Charles, l'animateur vedette de votre radio préférée si vous êtes à Tours, puisqu'il s'agit de Radio Béton. Mais n'oubliez pas d'écouter les radios Ferrarock près de chez vous.
C'est vrai. Moi, c'est Enzo et je suis à Radio Béton depuis très longtemps. Et je m'occupe également de la programmation du fabuleux festival Au Quart de Tours qui fêtera sa 38e édition du 10 au 14 juin prochain à Tours, donc sur la très belle plaine de la Gloriette. Une 38e édition qui aura pour thématique quel chantier ?
Une thématique qui colle plutôt bien à cette programmation dont on va vous parler, puisque c'est pour ça qu'on est là dans cette émission. Au programme de cette année, 5 jours sous chapiteau, 5 jours de musique indépendante qui vient des quatre coins du monde, de l'Europe, et qui navigue au travers d'esthétiques variées mais précises, puisque sans envoyer de fleurs à mon camarade Enzo, je suis assez content de ce qui se profile.
Moi, si t'es content, je suis content. Hein. Comme on va parler à plein de radios qui connaissent peut-être pas du tout le festival Au Quart du Tour, voire qui connaissent pas la ville de Tours, bouh, la honte, peut-être rappeler très rapidement, c'est quoi Au Quart de Tour, c'est d'où il vient, quel est ce festival et pourquoi il est mieux que les autres. Le festival Au Quart de Tour, il est intimement lié à Radio Béton, donc la radio Ferrarock de Tours. Cette radio Ferrarock, début des années 80, milieu des années 80, était une radio pirate à l'époque. Une radio pirate qui a été assez rapidement maîtrisée par les autorités de la FM à l'époque pour leur dire non, 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 n'émettez pas de manière illégale. Mais une radio qui avait déjà acquis une solide réputation en quelques mois de la part du public punk, plutôt à l'époque tourangeau. Et pour protester contre cette interdiction d'émettre, ils ont organisé un grand concert sur Tours le 21 juin, avant que la fête de la musique n'existe. Hein. C'était en 86. Pour protester contre cette interdiction en faisant jouer plein de groupes de punk de Tours et d'ailleurs. Et c'est comme ça que la radio Béton s'est mise à organiser son festival Au Quart de Tours qui a eu plusieurs formes au fur et à mesure de son histoire, hein, puisqu'on parle maintenant de presque 40 ans de festival Au Quart, 38e édition cette année. Et voilà pourquoi c'est un festival un petit peu particulier puisqu'il est vraiment organisé, orchestré par Radio Béton, aussi bien au niveau esthétique. On va retrouver quasiment que des groupes qu'on va défendre toute l'année sur le festival. Des groupes, comme tu le disais, locaux, mais aussi internationaux et nationaux. Que aussi un esprit, j'ose dire, potache, assez emblématique de Radio Béton, qui a toujours aimé ne pas trop se prendre au sérieux. D'où des costumes dans tous les sens, d'où de la déco dans tous les sens, autour de la thématique choisie chaque année par une bande de bénévoles. Et qui est cette année, quel chantier ? Donc on risque de voir des choses tout à fait dans le bâtiment au fur et à mesure de ces 5 jours de festival, donc entre musique et également on va dire art de rue, art d'intervention, puisqu'il y a également une place faite aux arts non musicaux sur cette belle plaine de la Gloriette qui est un très grand parc au cœur de la ville de Tours.
On prendra donc la direction de cette fameuse plaine de la Gloriette où là tu nous as concocté des plateaux qui sont plutôt énervés.
Bah alors à Au Quart souvent, après moi j'ai entendu plein de choses sur Au Quart, il y a des gens qui disent ouais c'est un festival où il y a que de la musique électronique, d'autres c'est c'est un festival où il y a que du rock, d'autres c'est c'est un festival où je connais rien, et ils ont un peu tous tort et raison à la fois. Effectivement, Au Quart de Tours est quand même assez terre de rock, hein, avec Radio Béton qui a toujours été quand même une asso une radio plutôt rock, et forcément chaque année sur Au Quart, eh bien on essaye en tout cas de faire venir pas mal de groupes de rock du monde entier qui nous semble tout à fait pertinent à l'heure actuelle. Je ne sais pas toi si tu as des petites recos sur la scène rock qu'on découvrira cette année sur Au Quart.
Alors là, il n'y en a pas qu'une.
Ah, il n'y en a pas qu'une.
Il y a déjà le retour, globalement tous les 5 ans, ils reviennent, ils arrachent tout et ils redisparaissent. C'est évidemment Cabambino, les légendes bordelaises qui reviennent, là je crois, d'une immense tournée en Amérique du Sud et qui sont revenus avec un nouvel album cette année qui est absolument fantastique. Donc ça risque d'être assez énervé. Ça c'est le mercredi 11 juin. Et d'ailleurs, le même soir, en parlant de Rocco Rock, il y a aussi les Irlandais, les Nord-Irlandais de Shulk. Shulk, qui, là, si Cabambino sont des légendes, Shulk, ce sont des futures légendes, très clairement.
Légendes en devenir, oui.
Ouais, parce qu'ils ont sorti quoi, trois EP. Et les trois EP sont d'ores et déjà légendaires dans les bacs de Radio Béton. On les a beaucoup, beaucoup joués. C'est vraiment du post-punk aux accents noise, aux accents indus, avec des petites moutures presque électroniques, des références électroniques. Et tout ça, c'est une arme, c'est vraiment une arme de destruction massive, mais en même temps, c'est assez élégant, très nord-irlandais, quoi.
Ouais, il sera vraiment. Faudra être bien accroché à son slip. Je pense que c'est un des soirs les plus vénères de la semaine.
Ah ouais, c'est absolument certain. Après, il risque d'y avoir quand même des choses qui risquent de secouer plutôt, notamment un groupe que tu m'as fait découvrir en le programmant, les Portugais de Machina.
Ouais, c'est une sorte de rock métronomique, un peu matrock à la jungle dans ce sens-là. C'est un trio donc portugais qui fait monter la tension comme ça sur des morceaux qui peuvent s'étirer parfois sur 6, 7, 8 minutes en formation rock. Ça monte, ça explose. Et c'est vraiment un style de musique que j'apprécie beaucoup et qui fonctionne très très bien sur Ocar, notamment sur le petit chapiteau, parce qu'il y a deux scènes. Il y a la grande scène pour les grandes vedettes et la petite scène pour les futures vedettes. Et cette petite scène a pour moi le grand avantage de ne pas avoir de frontière entre la scène et le public. Vous voyez, il n'y a pas les crash bars qui mettent parfois 1 mètre, 2 mètres et qui font perdre parfois un petit peu l'urgence et la frontalité des concerts. Là, on est direct la tête dans les amplis quand on est au premier rang de cette scène, et ça donne une ambiance assez folle. C'est souvent un endroit où il y a énormément de slam et de pogo, et ça sent fort la sueur. Donc les Machina sous le petit chapiteau, je sais que ça va être une belle dinguerie. Ça sera le vendredi soir pour ces Portugais à découvrir absolument.
Et en parlant de groupe à découvrir absolument, c'est un groupe dont je suis très content qu'on reçoive, puisqu'il s'agit des House Painters, qui est un groupe que j'ai le plaisir d'avoir rentré sur les ondes de béton, et avec un album qui est absolument génialissime. C'est un groupe hollandais, et ça rappelle vraiment, si vous êtes dans la vibe un peu dance punk 80 à la new-yorkaise, à la Talking Heads aussi, et tout ça, Gang of Four même peut-être un peu sur les bords. Vraiment, c'est un pur régal, c'est vraiment la continuité de ça, et c'est extrêmement réussi. Donc je suis hyper excité à l'idée qu'on puisse bientôt les voir en live.
Ouais, beaucoup beaucoup de plaisir effectivement sur House Painters. C'est moi ce côté très groove dans leur ligne de basse que j'aime énormément. Alors on pourra aussi parler des Américains de TVOD qui viennent ou qui vont sortir leur premier album, que j'ai très hâte d'écouter et de retrouver sur le festival, et sur quelque chose d'un petit peu moins presque d'un petit peu triste, puisque je sais que ça sera la dernière fois qu'on pourra les voir. C'est évidemment moi un de mes coups de cœur ces dernières années, c'est les Porridge Radio, qui est un groupe magnifique, hein, de pop, de rock et de pop, qui a annoncé en début d'année arrêter le groupe et faire donc une ultime tournée. Dieu merci, cette ultime tournée passera par au quart de tour le mardi soir, et c'est un très beau groupe, une musique rare, très sensible et en même temps extrêmement passionnée, je trouve. Dans le chant de Dana, il y a une passion, il y a une tension qui est habitée et qui se sublime encore plus en live.
Et pour un dernier sensation rock, mais peut-être un peu plus hybride, c'est évidemment Che Guevara. Que tu nous as proposé le mardi, presque en ouverture du festival.
C'est vrai que Che Guevara, tu vois, je ne l'aurais pas naturellement mis dans la case rock, mais tu as raison, puisque elle mélange d'une manière très habile et finalement très cohérente des influences afro, hein, et une énergie très punk dans son chant, dans sa posture, dans sa personnalité aussi, et c'est aussi dans la musique, puisque de temps en temps ça casse bien sur les guitares et sur la batterie. Et Che Guevara, ouais, le concert, il est hyper progressif. Ça va commencer effectivement plutôt sur des choses afro, très dansant, et au final une explosion très punk dans l'esprit et dans la musique. C'est vraiment un show hyper intense, et je suis très content de pouvoir le proposer cette année sur Ocar. Ouais.
En parlant d'hybride, tu t'es un peu lâché sur les musiques un peu transversales quand on réfléchit à des projets comme celui de la Fantastique et la Minus, qu'on va retrouver le jeudi 12 juin. Par exemple, typiquement, on est là-dessus, entre post-punk, techno, pop un peu électronique et vraiment énergie dance floor. C'est le genre de choses qu'on retrouve. Ou, le même soir d'ailleurs, dans un canal totalement différent d'hybridation, un groupe comme Yin Yin, ouais, qui est à mi-chemin entre la musique thaïlandaise, la musique asiatique, tout ce rock un peu des années 70-80 et des choses peut-être plus contemporaines aussi. Il y a toujours de toute façon c'est un peu historique de la programmation d'Ocar, mais il y a toujours comme ça c'est cette recherche de d'une musique mondialisée et qui cherche à écrire la suite peut-être du punk. Et d'ailleurs ça fait aussi penser à Internet Girl,
ouais, carrément. Évidemment. Internet Girl, ouais, des Sud-Africains qui ont un esprit très et parfois des phasés dans leur musique très punk rock du début des années 2000 en mode punk rock californien, mais vraiment revisité à la sauce actuelle avec un côté très digital et c'est énorme sur scène, hein, ils sont trois vraiment à pas rater et toujours dans ces hybridations. Moi je pense aussi à ce pont entre la musique afro et la musique club underground anglaise avec le duo Mina and Bright aussi rarissime en France et qui un peu de plus en plus officialise donc le côté productrice avec Mina qui est donc une artiste anglaise qui est vraiment dans la club musique anglaise underground très rond, très dansant et en même temps toujours un petit peu sale et l'énergie du MC Bright donc lui qui si je ne me trompe pas est ghanéen mais désormais basé en Angleterre et ils ont d'abord commencé par de temps en temps apparaître en featuring sur un disque de l'un ou de l'autre et là ils ont vu que ça matchait vraiment bien, ça fait quelques années qu'ils se côtoient et donc faire des tournées ensemble et ça va être je pense un moment de danse qui va être très très fou
Complètement. Et puis en termes de valeur, c'est trop bien parce que, par exemple, Mina, c'est une figure qui est assez intéressante parce que je crois que c'est à Londres qu'elle a lancé une série de soirées sans alcool et sans drogue.
Ah ouais.
Ouais, pour proposer cet espace-là. Et je trouve ça vraiment mortel. Donc j'ai hâte qu'on l'ait parmi nous.
Ouais, et toujours dans ces choses un petit peu étranges. Là, on va rentrer presque dans l'étrange avec un duo de Hollande. Encore une fois, on parlait des Yin-Yin ou encore des Hoospenters. C'est vrai que la Hollande a une belle visibilité dans la prog de cette année puisque je vais vous parler des Lion Storm. Je sais pas si t'as un peu digué ce duo.
Mais mon qualificatif c'est un délire.
Ouais, c'est chelou, mais en même temps ça a l'air vraiment.
Ça arrache tout.
Ouais, ça a l'air vraiment dansant. Il y a un côté hip hop et basse musique, mais avec une esthétique complètement assumée, queer et presque sexuelle dans leur approche du corps et de ce qu'ils en font sur scène. C'est vraiment des personnages.
C'est voilà. Un objet, ouais, c'est un objet de discussion dans leur musique, dans leur art et tout. C'est vraiment hyper puissant.
Voilà. Et puis sinon, il y a évidemment, là, on est vraiment allé dans des choses un petit peu les choses qui vont surprendre le public, c'est ce qu'on préfère à Ocar. Mais il y a aussi des moments de communion.
Il y a aussi des vedettes.
Il y a des moments de communion, comme évidemment, comment passer à côté du retour des deux sœurs américaines de Coco Rosie.
Voilà. Oui.
Avec un album qui est sorti en ce début d'année qu'on a beaucoup aimé ici à Béton et qui montre que les Coco Rosie à la fois savent conserver cette musique qu'elles seules savent faire. De pop, on va dire, mais de pop hybride, de pop. Difficile de donner un autre qualificatif autour, tellement c'est de la pop à la Coco Rosie. Et en même temps, de continuer à avancer dans ce nouvel album. Il y a plein de nouvelles choses et c'est super cool.
En termes de rap, on est vraiment allé chercher des trucs qui sont peut-être vraiment le futur du rap français, notamment avec Bébé Jacques, mais aussi évidemment Ziné, l'affaire de Lens de la 75e session, la Toulousaine, qui vraiment a impulsé quelque chose dans sa musique qui est complètement fou, qui est hyper sensible, hyper prenant. Un peu, c'est marrant parce que c'est un peu, je la qualifierais presque de porridge radio du rap français. Dans cette vibe, mais c'est marrant parce que les
ça
deux
joue le même soir. C'est ouais. Bien fait quand même. Ah,
putain, c'est fou.
Il y en a qui bossent.
Est-ce que ce serait une soirée un peu émotion?
Ouais, je pense. Bah, c'est l'ouverture de cette 38e édition. Et il y a un peu de rap, évidemment. Et puis, je voudrais parler aussi, toujours dans une veine rap, tendance un petit peu à R&B quand même. C'est la Tour Angèle de Jeanne et les autres, qu'on est très fiers ici de programmer pour sa première apparition, en tout cas sur les scènes entre guillemets officielles du festival, puisqu'elle était déjà passée par les Apéroc, dont on parlait tout à l'heure, et également sous une autre scène un petit peu satellite du festival, qui est la scène des Nomadland, qui fait la part belle au DJ set clubbing, mais aussi au live de figures montantes de la scène Tour Angèle. Hein, c'est un peu une scène que nous ne maîtrisons pas ici à Radio Béton, et c'est avec grand plaisir que chaque chaque année on leur donne carte blanche et il y a plein de choses aussi là-bas à aller découvrir sous le chapeau Noumaland ainsi que sous le chapeau de Keke. Un digger émérite à Radio Béton et lui aussi s'est mis à inviter pas mal de jeunes pousses de la scène tourangelle sous son chapiteau. Ce que j'aime bien à Au quart de tour, c'est qu'effectivement il y a ces deux scènes principales, mais surtout il y a des surprises dans tous les sens. On se balade et s'il y a un groupe qui nous fait chier, eh ben on va se balader sur la plaine de l'Arriette, on va tomber peut-être devant un DJ set techno sous le chapeau de la Smala, devant un DJ set bougalou sous le chapeau du DJ Keke, ou alors sur les arts de la plaine, hein, ce petit espace, donc, comme je le disais en ouverture, qui n'est pas dédié à la musique et qui cette année donne carte blanche à un jeune collectif tourangeau, le Théâtre du Sous-Sol, qui fait une création exprès pour le festival autour de la thématique, donc qui fera son chantier pour le cabaret du sous-sol. Et ça fait partie donc des moments improbables qu'on peut découvrir sur le festival Au quart de tour. Voilà ce que c'est Au quart, c'est plein de choses. Donc le mieux c'est encore de venir, si vous ne connaissez pas déjà, de venir le découvrir en vrai. Alors petit point billetterie quand même, malheureusement victime de notre succès, et c'est normal puisque c'est le meilleur festival du monde, les passes 5 jours au prix défiant toute logique de 35€ les 5 jours sont épuisés. Néanmoins les passes 1 jour, et on le répète, c'est du mardi 10 au samedi 14 juin, reste disponible encore hein, à 12€ la soirée.
Donc un là prix aussi, qui lui aussi défie toute logique, en tout cas toute logique capitaliste par exemple.
Voilà, pour une, pour une 10, 12, 15 propositions par soir. Hein, toutes ces infos sont évidemment à retrouver sur le site web du festival www.aucart-tour.com pour la programmation, les jours de passage, les playlists et la billetterie. Merci les Radio Ferrarock de nous avoir écoutés. C'était Enzo et Charles pour le festival Au quart de tour du 10 au 14 juin prochain à Tours sur la plaine de la Gloriette, 38e édition.
On s'y voit.
Ciao.
Dig, Dig, Diggers, l'émission de Radio Ferrarock. À l'instant, Enzo et Charles vous parlaient de la déclinaison live de Radio Béton. Il s'agit du festival Au quart de tour du 10 au 14 juin où vous retrouverez la Ferrarock pendant ses 5 jours de festival en direct de 17h à 19h. Et Quentin de Jet FM à Nantes recevait Trix pour la sortie de leur album Ego, paru le 11 avril en autoproduction, ainsi qu'Elise Bourne qui a livré également le 11 avril Covenant via le collectif Opéra. Pour réécouter cette émission et en savoir plus sur les artistes et festivals soutenus, rendez-vous sur www.ferrarock.org.